Léonore Confino, donc l'autrice dont nous avons beaucoup parlé et en cours et en option théâtre. Les élèves de première ont travaillé sur un texte d'elle et la choisiront aussi comme lecture cursive à la fin de l'année pour le bac. Et pour l'option théâtre, eh bien, nous travaillons avec le théâtre de Privas qui, dans le cadre du dispositif Une autrice, une année. Et donc cela comporte à la fois un stage qu'on a eu au début d'année avec des enseignants du second degré, la rencontre d'aujourd'hui avec toutes les classes d'option et de première.
Merci beaucoup. Je suis très contente de vous rencontrer. Alors, on va faire une petite expérience que j'aime bien faire. Vous allez fermer les yeux. Et vraiment, vous ne faites pas comme vos copains, hein, vos copines. Vraiment, vous fermez les yeux et vous vous laissez faire. Et je vais simplement vous dire le mot « neige ». Ok, ouvrez les yeux. Qu'est-ce que tu as vu derrière le mot « neige » quand je t'ai dit le mot « neige »
Moi, je me suis rappelé un petit peu de mon enfance. Parce que, bon, ici, il n'y a plus trop de neige maintenant. J'ai vu la neige qu'il y avait chez moi avant que je déménage. Puis la neige qu'il y avait quand j'ai enfin déménagé. Et puis, et après, je me suis rappelé de tout ce que j'ai vécu un petit peu avec ma famille en général.
Voilà. Alors là, on a quelqu'un qui a un monde intérieur extrêmement riche. C'est-à-dire que je dis le mot neige et tout d'un coup, il y a des pans de vie qui reviennent. Neige, qu'est-ce que tu as vu, toi?
Chez moi, il neige beaucoup. Du coup, juste, j'ai vu ma maison sous la neige.
Moi, j'ai vu une grande étendue avec la neige, avec plein de soleil. Parce que la première fois que j'ai vu la neige, c'était dans un champ avec plein de soleil, comme ça.
Moi, ça m'a rappelé un voyage en Finlande. Du coup, ça m'a rappelé la neige, etc.
Moi, pareil, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance quand je partais à la neige avec mes grands-parents quand j'étais plus petite.
Ça m'a rappelé Méribel. C'est l'endroit où je vais tout le temps avec mes parents à la neige parce que c'est là où mon père vivait quand il était plus petit.
Moi, je me suis imaginé ma maison sous la neige quand je m'amusais avec mon frère dans le jardin et qu'il neigeait.
Moi, je me suis rappelé ma maison d'enfance quand j'allais à l'école à la neige, du coup, parce que j'habitais là-bas.
Alors, vous voyez, un mot, 10 visions différentes du mot. Donc, en fait, plus vous avez de mots, plus vous engrammez de mots, plus vous engrammez de souvenirs. Il y a des relais aux frères, aux pères, à la maison d'enfance, au déménagement. Un mot, c'est un monde. C'est vraiment un monde qui vient avec. Et on aurait pu faire la chose avec le mot eau, le mot terre, le mot feu, le mot table. Si je dis table, vous avez l'impression de comprendre le même mot, mais en fait, personne ne verra la même table, d'accord? Et c'est là vraiment que commence votre poésie intérieure et votre singularité. Et en fait, c'est de ça que parle le village des sourds un peu, mais tout est fait, tout est orchestré avec les réseaux sociaux, les téléphones portables, etc., pour que vous voyiez tous exactement la même neige, la même table et que vous aimiez la même cuisine IKEA. Comme ça, ils peuvent en faire 5 et tout le monde désirera la même cuisine IKEA. Et comme ça, ils vont pouvoir vendre à la masse entière. Tout est fait pour que vous désiriez les mêmes baskets et que ce soit un désir absolument lancinant. Et en fait, plus vous avez de mots, plus vous avez de capacité de résistance par rapport à cette uniformisation du désir de masse dans lequel on veut vous mettre. Et en fait, c'est hyper important de conscientiser ça parce que tout ce qui va vous permettre de discuter entre vous, c'est une tannée pour les marchands et pour le monde commercial et pour le capitalisme. Parce que tous les moments que vous passez à discuter, à faire du foot sur un terrain, à papoter, à être dans un canapé sans ses bestioles, à discuter entre vous, c'est des moments où on ne peut rien vous vendre. Et du coup, c'est des moments où vous pouvez vous développer. Et en général, enfin, je pense que quand on arrive en fin de vie et qu'on regarde les moments importants dans notre vie, c'est rarement le moment où on s'est acheté des baskets. C'est plutôt le moment où on a une grande discussion avec quelqu'un, le moment où on a partagé une émotion, le moment où on a pris quelqu'un dans ses bras, le moment où on s'est éclaté dans une rivière avec des potes, le moment où on a écrit de la poésie seul dans son coin et tout d'un coup, on était traversé par quelque chose de super puissant. Voilà, c'est essayer de se dire, c'est ces moments-là. Pour vous, c'est quoi les facteurs d'appauvrissement du langage, par exemple ? Qu'est-ce qui appauvrit ou qu'est-ce qui agrandit d'ailleurs? Oui.
Ne pas lire.
Alors il y a ne pas lire en effet. Je trouve que la lecture ça agrandit Ça agrandit beaucoup notre rapport justement à l'abstraction, à l'imaginaire, etc. Mais ça peut passer aussi, d'ailleurs, par la musique, être sensible aux paroles des chansons. Moi, j'adore aussi regarder des films, mais j'adore regarder des films de A jusqu'à Z avec une vraie dramaturgie. L'esprit critique aussi, ça nous permet de nourrir notre langage. Quand on a envie de défendre quelque chose, c'est quand même bien d'avoir les mots pour le faire. Est-ce que vous avez des conversations, vous, par exemple, avec vos grands-parents, avec d'autres générations, ou pas du tout? Est-ce que c'est un peu cloisonné?
Moi, je sais, ma grand-mère, elle habite dans le même village que moi, donc je la vois souvent. Et je sais qu'elle me raconte souvent des anecdotes de quand elle était jeune et tout. Et moi, je sais que j'adore ça, parce que c'est trop intéressant et tout, de savoir comment elle vivait avant.
Je suis absolument d'accord. Enfin, je trouve que, effectivement, l'oralité, et puis j'imagine qu'elle a des expressions que t'as pas aujourd'hui.
Elle parle aussi de choses qui n'existent plus.
Oui. C'est ça, donc voilà, c'est pareil, ça fait travailler notre capacité à imaginer un passé, une autre vie, à s'inscrire dans une histoire qui est beaucoup plus grande que nous. Mais je parle beaucoup depuis tout à l'heure, peut-être que vous avez des questions sur vraiment les pièces de théâtre, sur...
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez d'autres acteurs ou d'autres personnes interpréter vos textes? Est-ce qu'il y a des fois où vous êtes... vraiment contente parce que vous imaginiez ça dans la tête, pas du tout, parfois même vous pouviez être déçue.
Oui, alors ça m'arrive d'être hyper en colère. Ouais, quand on fait dire autre chose au texte, quand on vient vraiment j'ai écrit une pièce qui s'appelle Enfantillage et c'est un rapport assez violent entre un homme et une femme. Je sais pas si vous l'avez lu cette pièce. Mais en gros, l'histoire, c'est qu'au début, on voit un homme et une femme qui sont très, très beaux, très, très lisses, très, très raides. Et on ne comprend pas trop. Ils se disent vraiment des banalités. Ils se disent « tu es beau, tu es belle, tu es très beau, tu es très belle ». Et puis, ils parlent de leur journée, mais c'est vraiment un langage extrêmement rudimentaire. Et dans la pièce à côté, ils se plaignent parce que y a des voisins qui se déchirent littéralement entre eux. Et on entend les voix comme ça des voisins, de ses parents qui se battent, qui se font du mal, etc. Et on ne comprend pas trop ce que c'est. Et en fait, au bout d'un moment, on réalise que ces personnages un peu raides, comme ça, avec ce langage très basique, c'est les Barbie et Ken qui sont manipulés par une petite fille de 7 ans qui n'en peut plus d'entendre ses parents se hurler dessus dans la pièce à côté et qui, du coup, idéalise le couple de ses parents. Et donc, elle décide de fuguer. Et à ce moment-là, les deux Barbie et Ken, donc les comédiens, tombent, enfin disparaissent. Et ensuite, le plateau tourne sur lui-même. Et là, on découvre le décor qui était pastel, extrêmement mignon et tout ça. C'est le même décor, mais qui, d'un coup, devient un décor beaucoup plus usé. On voit les mêmes acteurs qui vont ensuite jouer ce qu'on a entendu dans la pièce à côté depuis le début. Et c'est une relation, en fait, entre les deux qui est... C'est un couple qui va pas bien, c'est des anciennes stars de lycée. Il y a toute une théorie sur les stars de lycée. Ils étaient très, très beaux, très, très populaires. Et en fait, ils n'ont pas été habitués à encaisser les difficultés de la vie. Donc, une fois adultes, tout est devenu, le moindre obstacle est devenu très dur, quoi. Parce qu'ils ont été habitués à surfer pendant toute l'adolescence. L'adolescence, c'est quand même un moment un peu dur. Je pense que vous pouvez tous en témoigner. Mais c'est aussi un moment où on apprend l'adversité, on apprend à dépasser le sentiment d'exclusion, etc. C'est un moment quand même extrêmement fondateur dans la vie d'un adulte. Et voilà. Et j'ai vu, par exemple, des mises en scène de cette pièce où tout devenait extrêmement misogyne, où on sentait que l'homme était en train de cogner sur elle, alors que ce n'est pas du tout ce qui est raconté dans la pièce. C'est vraiment une violence partagée entre l'homme et la femme. Et en fait, il y a des gens qui ont tordu le sens, voilà, en sous-entendant tout d'un coup que c'était une femme qui était battue par son mari. Et ça raconte pas du tout la même chose, et c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et du coup, la pièce en devient vraiment gênante parce que la façon dont je le traite est absolument inadmissible. Donc, il y a des pièces comme ça où on est vraiment sur la crête dans l'écriture. Et pour certaines pièces, quand une compagnie me demande les droits, parce que c'est comme ça que ça se passe, maintenant mes pièces elles sont éditées. Soit chez L'Œil du Prince, soit chez Actes Sud, il y a certaines pièces où je demande à rencontrer la compagnie pour être sûre qu'il n'y aura pas de malentendu sur ce qu'on raconte. Parce que c'est le piège du théâtre. Si effectivement on laisse des trous et des choses qui sont libres à l'interprétation, ça veut dire aussi que l'autre peut aller interpréter que sur certains textes, il faut faire attention. Mais la plupart du temps, je suis hyper heureuse de voir les textes qui m'échappent, quoi. Alors, à chaque fois que j'écris un texte, je suis très impliquée dans la première création. Le village des sourds, c'est ma compagnie. Building, Ring, c'est ma compagnie, etc. Donc, en général, je suis là, à côté de là ou du metteur en scène. Et on dialogue extrêmement régulièrement ensemble. Je viens une fois par semaine en répétition, pas plus. Comme ça, moi, j'ai du recul. Mais je suis vraiment voilà, en proximité avec la personne qui met en scène. Comme ça, on réfléchit ensemble. Des fois, je suis allée voir la première création de Ring. J'étais assez proche de l'équipe. C'était avec Samy Bouajila, je ne sais pas si vous connaissez cet acteur que j'adore, et Audrey Dana. Et donc, il répète comme ça pendant plusieurs semaines. Et une semaine avant la première, je vais voir un filage. Vous savez ce que c'est un filage? C'est vraiment, on va jouer la pièce de A jusqu'à Z et tout. Il y a encore des variables d'ajustement, mais en tout cas, ils étaient très contents de ce qu'ils avaient fait. Et c'était absolument dark, c'était hyper triste, c'était hyper sombre. Et à la fin, je suis un peu sensible et de ça, je sors, je fonds en larmes et je dis, mais j'ai écrit une comédie, c'était une comédie. J'avais pas du tout reconnu la mise en scène. Je trouve que tout était absolument tragique. Et du coup, il y avait un côté un peu ridicule parce que Ring, c'est censé être assez drôle aussi par moments. Pas que, mais un peu. Il y a aussi du pétillant. Là, ils jouaient Adam et Ève, on avait envie de se pendre. Enfin, je veux dire, tous les moments qui étaient censés un peu remettre de la folie, c'était devenu, mais tragique, quoi. Et je leur ai dit, ben, du coup, le texte, il résonne moins, que c'est naze, quoi, en fait. Ben, ça n'a pas été écrit comme ça, ça a été écrit pour que ce soit drôle, aussi, à certains moments. Voilà, donc souvent, je vais réorienter. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est d'essayer de retrouver quelque chose que j'ai l'impression de vivre dans mes journées, à savoir que dans mes journées, je pense que ça vous fait peut-être ça pour vous aussi, j'ai des éclats de rire, je peux fondre en larmes, je peux être en rage, je peux être stressée, parfaitement détendue, je peux avoir un désir, un non-désir, et j'aime bien que sur le plateau, on retrouve tous ces contrastes-là. J'ai du mal quand il y a des traitements monolithiques d'un texte. Je trouve qu'à l'intérieur même d'une phrase, il peut y avoir des intentions contrastées. Et je trouve que c'est ça qui l'éclate pour les comédiens, quoi. C'est quand tout d'un coup, à l'intérieur d'un texte, on va nous cueillir avec une forme de légèreté, puis tout d'un coup fondre en larmes sur la troisième phrase, se tenir à la table pour pas tomber, éclater de rire sur la dernière, quoi. Je trouve que c'est cette vivacité-là qui est intéressante.
Les élèves ont d'ailleurs lu des textes de Léonore Confino. Ils vont même vous en présenter deux extraits.
Alban, Jonas, Isaac, Aurélien, Théo, Jules, Marius, je sais pas.
Non.
Andy, William, toi qui as des origines anglaises, moi ça ne me dérange pas.
Non, mais je trouve ça un peu prétentieux, moi, ces trucs venus d'ailleurs.
D'accord, mais toi au fond, qu'est-ce que tu aimes?
Vaste question, je sais pas.
Est-ce qu'il y aurait des consonances, des sons qui te plaisent plus que d'autres?
C'est un prénom qu'on cherche. Pas des sons, un prénom, ça doit porter une histoire.
Alors propose, je t'écoute. Des mois, je nous ponds des listes et des listes et des listes. Je suis devenue une machine à chier des prénoms. Je t'en demande un, juste un. Le prénom de ton grand-père, un héros de bouquin, un truc historique, un martyr, Jésus, n'importe quoi.
Je suis désolée, pour l'instant, ça vient pas. J'ai pas d'idée.
T'as pas d'idée? Il doit donner un prénom à la chose la plus importante de sa vie, et lui, il a pas d'idée. Mais cherche, putain! Trouve! Ou sinon, tu me laisses décider.
Ah non, c'est mon fils, quand même.
Au secours, aidez-moi, aidez-nous. Je vais crever. Je suis en train de réaliser, juste là, maintenant, que notre existence va être un enfer. Tout mon projet de famille avec toi m'apparaît comme la plus grave erreur que j'ai faite de toute ma vie. Ce doute permanent, cette façon de prendre ton temps pour tout, non, je vais pas supporter. Hein.
Tu veux la péridurale?
Je veux un prénom.
Écoute, j'ai vaguement une petite préférence pour quelque chose. Ah! Mais je sais que tu vas pas aimer.
Dis! On verra après! Dis-le!
Tu vas pas aimer.
Ok, je vais aimer. Je te jure que je vais aimer. Au point où j'en suis, je veux bien qu'on l'appelle table, chaise, halogène ou bilboquet.
Non, quand même pas. Non, je voulais te proposer Gwenaëlle.
Gwenaëlle? Gwenaëlle? Oh mon Dieu, je déteste! C'est pas possible! Je trouve ça si laid! Et pire, le diminutif. Gwen. Comme une Gwen. Non mais pourquoi? Pourquoi? Je vais crever. Gwenaëlle.
Je trouve ça doux.
C'est pas doux, c'est mou, on dirait de l'aligot.
Ben j'ai pas d'autre idée.
Ok, pas grave. Ok pour Gwenaëlle, en deuxième prénom. C'est bon, le deuxième prénom, finalement, c'est pas si dramatique. Maintenant, trouve-moi un autre. Sur la tête du petit, cette fois, je te dirai oui. Je te jure. Un autre, n'importe lequel.
Mais tu vas pas aimer non plus, hein.
Ça ne peut pas être pire que Gwenaëlle, ça existe pas, pire que Gwenaëlle.
C'est breton, aussi.
D'accord. J'ai rien contre les bretons de manière globale, hein. J'adore les bretons.
N'en fais pas trop, quand même.
Vas-y, crache.
Brieux.
Brieux, c'est-à-dire?
Avec un C à la fin. On écrit Brieuc, mais on prononce Brieux. Du coup, ça donnerait Brieux Gwenaëlle Bourdet.
C'est terrible. C'est pas de ta faute, hein. Mais je me rends compte qu'on n'a rien à voir l'un avec l'autre.
Prêt à décoller? Passeport? Dentifrice? Préservatif?
J'ai tout.
Je peux juste te demander un petit service?
Tout ce que tu veux, sauf m'occuper de ton cauchemar de chat.
Non, c'est pour mes plantes. Elles tiendront pas le coup 3 mois sans arrosage. Ça te dérangeait si je te passais mes clés pour y aller de temps en temps?
J'y verrais comme sur mes cheveux.
C'est bien ce qui m'inquiète.
Petit con.
T'as l'air tendu.
Voir son meilleur pote partir, forcément, ça donne le blues. Surtout quand on reste à quai.
T'inquiète, je t'écrirai de bons vieux mails en nu avec tous les bons gros clichés du Québec.
Tu peux tartiner, je m'ennuierai jamais en te lisant.
Wow, quel aveu. Surtout toi qui es toujours à faire de l'ironie.
Oh, ça va.
T'as un problème? Pourquoi tu fixes le vide?
Pourquoi je fixe le vide? Pourquoi je fixe le vide? Parce que je t'aime. Je t'aime comme si j'avais 12 ans. J'ai l'impression d'avoir des gyrophares dans les yeux.
Regarde-moi.
Non, pas tant que j'aurais pas tout dit. J'ai un éclair d'inconscience, alors tu permets, je m'en sers. Après, ce sera trop tard. Voilà, t'es là partout, Camille. Tu t'es glissée dans je sais pas trop quoi. Mon ventre, ma tête de mule, mes poumons, j'ai pas bien localisé. Mais j'ai le trac à chaque fois que tu m'appelles. Et je dois toujours respirer un grand coup avant de répondre par un halo qui donne pas l'impression que je m'étrangle. J'ai la tête en vrac. Je suis furieuse de devoir partir dans le pays où les femmes sont aussi entreprenantes que les hommes à ce qu'on dit. Je suis jalouse. Pas une jalousie de midi net, non. Je mourrai. Parce qu'on va être clair, si tu rencontres quelqu'un d'autre, je meurs. Je vais être près de toi pendant des années. Et tant qu'on y est jusqu'à ce que je sois sous terre. Ça n'a rien à voir avec les autres couples et leurs petits jeux mesquins. Moi, je m'en tape de la séduction des fleurs et tout le folklore. Moi, je prends l'après avec le grand voyage, avec la fatigue, les maladies, les disputes, ton enfance pourrie, ta mère cinglée, tout. Qu'est-ce qui me prend? J'ai plus aucune inhibition, ma langue parle toute seule. Je suis amoureuse de toi depuis toujours. Je suis crevée de me taire. Je t'aime. Je t'aime tellement, je suis un déluge. Je vais t'emporter dans des montagnes d'adrénaline. Je vais te donner confiance en tout, même en la mort. Je veux qu'on ait des enfants de toutes les couleurs.
Camille, regarde-moi. Rentre chez toi. Et mets des habits chauds dans ta valise. Parce que ça caille à Montréal.
Et les plantes?
Qu'elles crèvent.
Oui.
C'était quoi vos inspirations pour le village des sourds? Enfin, je veux dire, comment vous y avez pensé?
Alors, le village des sourds, il y a eu 2 expériences qui, pour moi, étaient marquantes, voire 3. Alors, vraiment, ça a commencé à la naissance de ma deuxième fille qui n'a pas dormi pendant 2 ans, qui s'est réveillée 7 fois par nuit. On ne comprenait pas pourquoi. Mais du coup, j'étais complètement épuisée. J'ai commencé par vraiment perdre mes mots. J'arrivais plus à parler, je finissais plus mes phrases. Et c'est une époque où j'avais des commandes d'écriture. J'écris aussi pour le cinéma, dans des commandes de scénarios. Et j'ai dû tout annuler parce que mon imaginaire était à sec, littéralement. Et je me suis mise vraiment à paniquer. Et du coup, au bout de 2 ans, quand vraiment j'ai eu peur de la pénurie de langage, je me suis mise à ouvrir un petit carnet comme ça. Et j'ai noté tous les mots, c'est des mots qu'on retrouve dans le spectacle, palimpseste, cucurbitacé, pistil, outrecuidance, nouba, tous les mots que je trouvais beaux, qui m'évadaient. Il y en a des centaines dans ce petit carnet. Je l'ai mis de côté, mais je me suis dit, un jour, je mettrai ça dans un spectacle. Et vraiment, je me suis dit, c'est un danger fondamental que de perdre ces mots, c'est tout d'un coup, on perd sa joie, on perd son lien aux autres, etc. Et ensuite, j'ai commencé à écrire véritablement pendant le Covid. Alors, il y a eu 2 choses. Il y a eu toutes les règles qu'on nous imposait et on avait tellement peur qu'on était OK de se faire des auto-autorisations pour sortir. Alors, vous êtes à Aubenas, mais nous, à Paris, c'était vraiment la folie. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de nature autour de nous et vraiment, on descendait 5 minutes. On écrit « Je m'autorise à descendre 5 minutes pour acheter du pain ». Point. Puis après, on était contrôlés par la police, il fallait montrer que, voilà. Donc, on avait tous des gommes, on gommait, puis on rajoutait 10 minutes, bref. À un moment donné, on nous a interdit de nous parler dans le métro pour ne pas nous contaminer. Vraiment, c'était tout un truc que vous avez connu, vous aussi, évidemment. Donc, il y avait ce, cette chose, je me suis dit, tiens, mais on a tellement peur qu'on serait à la limite capable de se couper un doigt si on nous disait que ça supprime. Ça allait loin quand même, cette histoire, même s'il y avait évidemment une maladie, une contagion réelle. Et surtout, pendant cette période, je me suis mise à écrire une série, comme tous les théâtres étaient fermés, j'ai écrit une série pour Canal+. Et je détestais ce que j'étais en train d'écrire, de faire, mais j'avais besoin de manger. Et donc de remplir mon frigo. Et parce que j'ai deux enfants et un loyer à payer. Et donc j'ai commencé à écrire cette série pour Canal+, qui est quand même gouverné par un type qui s'appelle Bolloré. Voilà, pour lequel j'ai vraiment pas de sympathie. Donc pour moi, c'était le marchand, Monsieur Onk, c'était vraiment Bolloré. Et donc je vendais mes mots littéralement. Donc j'avais l'impression d'avoir des idées qui venaient. Et de lui donner, et qu'en échange, il me donnait de l'argent pour remplir mon frigo. Et c'est là qu'est venue cette idée de, tiens, mais si on avait comme ça un village avec une langue hors du commun et un marchand qui arriverait et qui vendrait ses produits contre des mots et on ne pourrait plus jamais les prononcer ni les écrire. Voilà. C'est la récréation. Après, le groupe qui va rester, je vais vous faire écrire pendant une heure et puis vous allez jouer aussi pendant une heure. C'est vraiment fou et c'est quasiment systématiquement toujours ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est les plus timides, les plus effacés, parfois aussi les plus exclus qui tout d'un coup, quand on leur donne la parole et vraiment l'espace pour être écoutés, entendus, c'est eux qui vont nous bluffer par la qualité de leur monde intérieur. Parce que souvent, les élèves qui sont un peu seuls, ils n'ont pas le choix aussi que de cultiver un monde intérieur, un monde à eux. Et là, tout d'un coup, ça nous explose au visage. Et c'est absolument magnifique. Donc ces ateliers, c'est aussi vraiment des outils de tolérance et de redonner une pleine place à chacun. Et parfois aussi de créer des vocations. Parce que le théâtre, ça peut vraiment être un endroit justement de sécurité et d'expression pour des gens qui ont du mal à être dans la vie, dans les relations sociales, tout d'un coup, tac, ils sont sur un plateau éclairé, entendu, et là, on les entend pleinement, quoi. Moi, c'est vraiment, j'adore aller dans des établissements comme ça, parce que, ça les sort du devoir, de l'obligation, ils découvrent ce que c'est que la liberté, la transgression par l'art, et comment on augmente sa vie, quoi. Tout le monde a des goûts, déjà. On n'est pas obligé de tout aimer. Je pense qu'il faut aller un maximum au théâtre, voir des concerts, et tout d'un coup se dire, tiens, qu'est-ce qui résonne en moi? Et ensuite, c'est d'aller absolument voir les équipes de théâtre, aller voir les metteuses et les metteurs en scène, les comédiens et comédiennes, et leur dire, tiens, bah, moi, ça me passionne. En tout cas, c'est de créer un dialogue avec les équipes, parce que nous, on adore ça. Enfin, je veux dire, quand un adolescent... Ou un jeune adulte vient nous voir à la fin d'un spectacle et nous dit ce qu'il a ressenti ou ce qu'elle a ressenti, ça donne du sens à notre métier. Donc c'est vraiment avoir aucune inhibition avec les équipes qui viennent présenter des créations. Et ensuite, s'il y a des questions de moyens financiers pour accéder au spectacle, etc., les théâtres ont une vraie mission d'accueillir les jeunes, de faire en sorte qu'il y ait des tarifs parfaitement accessibles et surtout ne pas avoir cette interdiction par rapport à l'argent que coûte un ticket de théâtre ou de concert. Les établissements trouvent toujours une solution. Voilà.
Une belle rencontre avec Léonore Confinot et ses élèves du lycée Marcel Gimond de Mona. Vous venez de suivre la deuxième partie de ce reportage en trois parties. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à découvrir les deux autres sur InfoRC, sur Facebook et sur notre compte X Twitter.